La quotidienne de Transistor, c'est maintenant un LEM coproduit une fois par mois avec les petits débrouillards Grand Ouest autour de l'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on se penche sur la qualité de l'eau.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui s'adapte aux changements qui touchent le Finistère, comme le reste de la planète, les changements climatiques, qui sont déjà là, qu'on ressent ou qu'on subit, des inondations bien copieuses et bien longues cet hiver, et tout à coup des records de chaleur, un 25 février, 19,4 degrés à Lorient par exemple, et ça c'est ce qu'on voit. Il y a aussi le souterrain, les sols qui ne sont plus aussi fertiles, les eaux qui ruissellent et s'évacuent trop vite quand il pleut beaucoup ou bien qui viennent à manquer par temps sec, faute de nappes phréatiques. Et qui dit peu de réserves, dit des problèmes de sécheresse estivale plus fréquentes. Donc là, c'est une question de quantité d'eau disponible. Mais également, et c'est le sujet de cette émission, il s'agit de qualité de l'eau. Parce que quand il y a moins d'eau, les polluants se concentrent dans les rivières, on a du mal à prélever une eau de bonne qualité pour la rendre potable. En plus, en été, il y a des touristes et des stations d'épuration qui saturent parfois. Donc, on retrouve aujourd'hui les Petits Débrouillards Grand Ouest, association d'éducation populaire qui vulgarise les sciences en général, qui se sont vus confier une mission de vulgariser cette adaptation. Il s'agit de faire en sorte que les gens comprennent les enjeux du changement climatique et s'adaptent à bon escient. Et ils nous proposent un mardi par mois dans l'EM d'autres invités en lien avec ce sujet. Aujourd'hui, c'est Mélanie Raymonnet de l'IUEM, Institut Universitaire Européen de la Mer. Elle est biogéochimiste chargée de recherche CNRS et il y a Maud Gatel qui est coordinatrice de projet de l'antenne Lorient des Petits Débrouillards Grand Ouest. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors Mélanie Raymonnet, on va commencer avec vous. Vous menez un programme de sciences participatives qui s'appelle Écoflux Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce programme, sa mise en place, depuis quand il existe ?
Donc le programme Écoflux Bretagne vise à mettre en place un observatoire de la qualité de l'eau et de la biodiversité à l'échelle de la Bretagne. Et il ne part pas de rien. En fait, il y a déjà eu un projet Écoflux qui s'est déployé à l'échelle du Finistère à la fin des années 90 et pendant 18 ans.
Oui, quand même.
Oui. Et en fait, il avait été construit avec des lycées agricoles et un réseau de bénévoles pour aller suivre la qualité de l'eau dans des petits fleuves côtiers, donc 11 fleuves sur le Finistère.
Ah oui, par exemple, est-ce qu'il y avait le Lapic dont on a beaucoup parlé sur Transistor ?
Du coup, bonne question. Très local, il y avait donc l'Aulne, les Lornes, mais aussi... le Kilimadec, plein de petits cours d'eau.
Oui, dont on ne connaît pas forcément les noms d'ailleurs. Ouais, mais qui sont des fleuves, qui se jettent dans,
dans
la mer.
Oui, parce qu'un fleuve, en fait, est un cours d'eau qui se jette directement dans la mer. Et donc, ce projet Écoflux qui a existé donc il y a déjà quelques années, s'est terminé par faute de financement. C'était un beau projet, donc il y a eu beaucoup de données, mais il y avait une petite limite, c'était que les participants ne faisaient que prélever un échantillon d'eau. Et ensuite, ils le transmettaient, les analyses étaient faites et on interprétait les données, etc. Et là, on a décidé de réfléchir à une nouvelle formule. Donc déjà, déployée à l'échelle de la Bretagne pour intégrer un périmètre plus grand et pour impliquer en fait, les lycéens dans toute la démarche scientifique. Donc se questionner en fait, sur cette qualité de l'eau. Aller prélever sur le terrain, réaliser des mesures, faire des analyses de nutriments dans l'eau et aller jusqu'à l'interprétation des données.
Parce que quand on dit qualité de l'eau, c'est très vaste. Enfin, qu'est-ce que c'est en l'occurrence dans le cadre d'Écoflux Bretagne ?
Dans le cadre d'Écoflux Bretagne, on s'intéresse donc aux nutriments. Historiquement, c'était nitrates, phosphates, mais aussi des silicates. C'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui est présent dans l'eau et qui est important pour le développement des petites algues dans l'eau.
Alors, nitrate et phosphate, bon, on sait un peu d'où vient l'idée. C'est que ça favorise notamment les algues vertes, les proliférations d'algues vertes, c'est ça? Et les silicates aussi, enfin...
En fait, c'est aussi utilisé par toute algue, y compris les toutes petites algues microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais si on prend un microscope, en fait, il y en a plein dans l'eau. Et en fait, il y a certaines petites algues qui ont besoin de silicates et qui ne peuvent pas se développer tant qu'elles n'ont pas ces silicates. Et donc, ces petites algues, c'est en général les diatomées. Et c'est souvent à la base des réseaux trophiques. Donc, c'est elles qui vont être consommées par d'autres espèces.
Ça fabrique un peu leur squelette externe, c'est ça? On a fait déjà des sujets là-dessus aussi. Ça a un impact sur les coquillages, etc. Ouais. Donc, il faut des silicates dans l'eau, en fait, c'est ça? Une eau de bonne qualité, il y a des silicates, c'est ça?
En fait, c'est naturellement présent. Et il y en a besoin pour les développements, pour le fonctionnement des écosystèmes. Et quand on amène beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore, on déséquilibre en fait le système et on peut avoir des conséquences, par exemple, d'autres espèces de microalgues qui peuvent se développer et certaines sont potentiellement toxiques, comme le groupe des dinoflagellés, qui eux n'ont pas besoin de silicates en fait pour se développer.
Et pourrait y avoir moins de silicates, enfin ça pourquoi en fait examiner la teneur en silicates de l'eau
En fait, c'est ce qu'on regarde, c'est plus l'équilibre, le déséquilibre en fait entre l'azote, le phosphore et les silicates.
Donc trois nutriments. D'autres choses encore. Enfin, fut un temps où il y avait les plastiques. Est-ce qu'il y a toujours
Pas encore, mais pour l'instant, ce qui est un peu en régulier, c'est aussi la température, parce qu'avec le changement climatique, c'est un paramètre qui change. L'oxygène, l'oxygénation de l'eau, la conductivité. On regarde aussi la turbidité.
La turbidité, c'est le fait d'avoir des particules en suspension, c'est ça?
Oui.
Et pourquoi c'est important tous ces paramètres, par exemple la température?
En fait, tous les organismes vivants vont se développer plus ou moins bien en fonction de comment varie l'environnement. Donc si la température augmente, ça peut avoir des impacts sur les espèces qui sont présentes. La turbidité, ça veut dire que plus on a de particules dans l'eau, moins la lumière pénètre et donc moins les algues peuvent se développer, ou des espèces qui sont adaptées à moins de lumière se développent. Donc c'est important de regarder tous les paramètres en fait qui permettent ces développements.
C'est pour ça que c'est le Écoflux Bretagne, c'est qualité de l'eau et biodiversité, en fait.
Oui.
C'est pour ça.
Oui.
Et c'est pas forcément... vous en avez parlé vite fait, parce qu'il y a les dinoflagellés, mais c'est pas forcément sur qualité de l'eau et santé humaine, en fait.
Non, c'est plus le lien avec les écosystèmes et moins la santé humaine.
Alors, dès le départ, Écoflux, c'était déjà participatif, et là, ça l'est toujours, hein, c'est ça?
Oui, participatif avec essentiellement des lycées agricoles ou MFR, maison familiale rurale.
Donc des lycéens, on va dire, c'est ça, enfin de la troisième à la terminale.
Oui.
Quoi. Et alors, c'est quoi les objectifs du programme?
Donc il y a plusieurs objectifs. Il y a un premier objectif qui est pédagogique, c'est-à-dire qu'on veut s'impliquer pour former les élèves à cette démarche scientifique. Pas uniquement la collecte, mais aussi toute la réflexion autour de la qualité de l'eau, jusqu'à l'interprétation des données. Et on veut contribuer à développer des enseignements qui sont basés sur de l'expérimentation, donc les amener sur le terrain, etc., pour les aider en fait à prendre conscience de leur environnement et en lien avec la ressource en eau. Il y a bien sûr des objectifs scientifiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser les données en fait qui sont produites. Pour pouvoir évaluer l'impact des transitions socio-environnementales sur les territoires et l'impact du changement climatique sur la qualité de l'eau et la biodiversité.
Et puis, quand on dit transition socio-économique, c'est quoi? Les modèles agricoles?
C'est changement de pratiques agricoles, par exemple, mais aussi, par le passé, il y a eu beaucoup d'améliorations sur les traitements dans les stations d'épuration. Donc, c'est toute activité, tout changement en lien avec les activités humaines.
Oui, c'est ça, d'accord.
Et le dernier objectif, il est territorial, parce qu'on veut essayer de contribuer en fait, à la transition des territoires. Et le programme permet à la fois une rencontre des acteurs et puis la production de connaissances pour l'aide à la décision.
Et donc, oui, le territoire, c'est, comme c'est Ecoflux Bretagne, c'est toute la Bretagne, enfin,
oui,
côtière.
Oui, mais donc là, on en est à la deuxième année du programme Ecoflux Bretagne. C'est encore, on en est dans la mise en place. Et donc, on travaille sur des sites pilotes pour le moment. Donc, dans le Finistère, on travaille avec 4 lycées agricoles. Et l'idée, c'est de valider les protocoles et valider les données pour ensuite, et proposer en fait... proposer aussi pas mal de ressources en ligne, notamment.
Ce qu'on va voir avec les petits débrouillards,
voilà,
je suppose.
Ça. Je fais un petit clin d'œil.
Allez, j'ai un modèle à toi.
Pour que ensuite ça puisse être déployé à plus grande échelle.
Oui, voilà. Donc là, oui, parce qu'un programme scientifique, c'est toujours long, même surtout quand c'est participatif, j'imagine. Sur l'équipe scientifique, il y a vous, Mélanie Raymonet, donc vous êtes biogéochimiste, mais il y a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discipline?
Oui. Déjà, il y a Anne Royer qui coordonne le programme pour la partie ouest du territoire de la Bretagne. Et donc, on a des collègues à Rennes en hydrologie, écologie, biogéochimie, ici aussi en biogéochimie. Et ensuite, on fait appel à des collègues plus ponctuellement, en fait, sur le phytoplancton, par exemple, donc les petites algues qu'on retrouve dans l'eau.
Et les prélèvements, d'ailleurs, sur le terrain, ils peuvent remonter, enfin, je veux dire, très en amont. Ça peut être au cœur des monts d'Arrée ou est-ce que c'est quand même toujours côtier?
Donc là, on s'intéresse surtout à l'eau qui sort des rivières, juste avant leur mélange avec les eaux salées. Donc pour regarder vraiment ce qui arrive des bassins versants. Mais on met aussi en place des événements plus ponctuels. Et là, ben, la semaine prochaine, on va sortir avec le lycée de Châteaulin pour aller prélever plus en amont sur le bassin versant. Donc, on va remonter la rivière pour regarder, en fait, comment la qualité de l'eau varie sur le territoire. Enfin, est-ce qu'on a quelque chose d'homogène, qui varie de façon homogène, ou est-ce que c'est hétérogène? Et donc, pour les amener à réfléchir, pareil, sur la qualité de l'eau.
D'accord. Alors, Maud Gatel, les petits débrouillards Grand Ouest. Donc là, j'imagine que les petits débrouillards sont partenaires maintenant, que du premier Ecoflux, vous n'y étiez peut-être pas impliqué dedans
Non, que depuis l'année dernière.
À l'année dernière. Et alors vous, votre mission, c'est évidemment l'aspect pédagogique. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport aux scientifiques?
Alors concrètement, nous, on intervient en classe avant... mais aussi après les prélèvements, pour sensibiliser à certains enjeux de l'eau, reposer peut-être le cadre du programme, rappeler quelques connaissances très, très oubliées, très lointaines,
oui, par
notamment
exemple.
Sur le cycle de l'eau, le fonctionnement du bassin versant, parce que c'est des choses qu'on a pu voir en fait, à l'école primaire ou en cinquième, mais après, en fait, qui est peu vu dans le reste du collège. Et du coup, en fait, on se retrouve confronté avec des jeunes qui arrivent en seconde et qui ne savent pas forcément comment fonctionne un bassin versant, d'où vient l'eau qu'ils boivent. Voilà. Donc, nous, on refait aussi ce lien-là par des expériences, utilisation de maquettes.
Voilà, la grande maquette du bassin versant, très connue.
Ouais. Des grandes, on fait aussi des petites, où chacun peut faire la sienne. L'idée, c'est de pratiquer, voilà, de constater en fait, comment l'eau s'écoule. On peut aussi venir avec des activités type quiz pour déjà faire un recueil des représentations, voir un peu déjà ce qu'ils connaissent. On peut utiliser d'autres supports comme des jeux de rôle. Là, prochainement, je vais utiliser un jeu de rôle avec justement une classe de Châteaulin, une autre classe.
Ce sera quoi les rôles dans le jeu de rôle?
Alors, dans le jeu de rôle, là, c'est on est un conseil municipal.
Ah bah tiens, ça tombe bien. Un peu dans l'actualité.
Et voilà, et on doit décider de ce qu'on fait de tous les millions d'euros qu'on a pour protéger la qualité de l'eau.
On a des millions d'euros, vraiment?
On l'imagine.
On va dire que oui. Mmh.
Et du coup, on va se pencher sur différentes vulnérabilités. Donc, ça peut être les risques liés à l'eau, comme les inondations et tout ça, mais aussi tout ce qui va être les risques par rapport à la vulnérabilité par rapport à la biodiversité aquatique, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la quantité, et la disponibilité, l'assèchement des sols, en fait, essayer de prendre aussi en compte tout cette. tous les aspects de l'eau en fait dans la globalité sur un territoire.
Oui, on se rend pas toujours compte à quel point l'eau est partout.
C'est ça.
Même si on l'a vu cet hiver.
Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est de là, ça permet en fait ce jeu, bah déjà de prendre conscience un peu de voilà de ça qu'il y a des partout. Et puis après, on a toute une des jeux de cartes en fait avec toute un panel de solutions possibles qui coûtent plus ou moins cher, qui peuvent avoir plus ou moins d'impact, qui peuvent être aussi, on en parle parfois des mesures plus de maladaptation ou en tout cas d'adaptation, on va dire vraiment très immédiate
et mais pas trop limitée quoi.
Trop limitée. Oui. Et donc on va être sur ces débats là. Mm-hmm. Donc il y a ces choses là.
Donc il y a pas mal de séances quand même.
Alors nous en général on fait 3 séances, 3 voire 4, ça dépend en fait la durée aussi hein, des séances dans les.
Et les scientifiques sont pas là quand vous faites ces séances là.
Pas forcément, ouais, c'est ça. Mais ça peut aussi. Mm-hmm. c'est en fait chaque Mélanie en parlait en fait, il y a plusieurs lycées qui sont concernés. Et dans chaque lycée, il peut y avoir plusieurs classes. Il y a certaines classes qui sont plus dans filières, on va dire, agricoles. D'autres qui vont être plus dans sciences techniques et laboratoires. D'autres qui vont
Ah oui, il n'y a pas
générales.
Que des lycées agricoles, en fait.
Si. Si, mais avec plusieurs types d'options.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Il y en a qui vont être plus dans l'aménagement paysager. Mmh. Et du coup, bah, on ne va pas forcément faire les mêmes séances avec eux que ceux qui sont en filière agricole ou ceux qui sont en technique de laboratoire.
Oui. Ah, il y a ça, technique de laboratoire aussi.
Ouais.
Ah bah ça c'est bien, pour les prélèvements, c'est parfait.
Voilà. Donc voilà, on ne va pas utiliser les mêmes supports. On peut aussi travailler avec des outils cartographiques bah, pour comprendre bah, voilà, à quel bassin versant en fait, chaque lycéen voilà, est raccroché, qu'est-ce qui se passe sur son territoire.
Oui, parce que les bassins versants sont très différents.
Ouais, alors, ouais. Par exemple, dans les écoles qui sont concernées, bah, y a un lycée qui se trouve en Ille-et-Vilaine, et ce n'est pas du tout la même chose qu'en Finistère. Notamment en Finistère, on a plein de petits bassins versants.
Oui, plein de fleuves, justement. Ouais. Ouais.
Mmh. Là, c'est fait aussi par rapport à bah, la géologie, en fait, hein, de la Bretagne, qui est un peu caractéristique. Et du coup, bah, voilà, c'est aussi de prendre ça en compte. Voilà. Après, on peut parler aussi de tout ce qui va être par rapport aux écosystèmes aquatiques, faire des activités autour des réseaux trophiques, comment, voilà, la chaîne alimentaire.
Chaîne alimentaire, oui.
Voir l'importance en fait, des différentes espèces dans un écosystème. Ça peut être aussi des choses par rapport bah, au lien entre l'eau et le sol, notamment dans les filières agricoles. En fait, elles sont très intéressées par ce genre de contenu parce que avec leurs élèves, bah, voilà, c'est comment leur faire prendre conscience et souligner l'importance de bah, des échanges eau et sol, bah, de tout ce qui est ruissellement, infiltration.
Que la façon dont on va labourer, enfin cultiver son sol aura un impact sur la façon dont l'eau va l'infiltrer ou pas, par exemple.
Ça peut être aussi sur... on échange aussi sur la façon dont on peut aussi filtrer le sol et le rôle notamment des haies bocagères, enfin voilà, tous ces éléments-là aussi qui sont à prendre en compte. Donc là, on va dire que c'est la partie un peu plus scientifique, mais dans ce programme, il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent. Notamment le Living Lab Clé qui est en soutien aussi sur les prélèvements et l'utilisation des appareils.
Ouais, qu'est-ce que c'est ça, le Living Lab Clé? Je ne connaissais pas.
Alors du coup, ça c'est des acteurs qui sont plus eux basés à Rennes, mais qui interviennent aussi en fait sur le programme Écoflux Bretagne et qui vont faire également une enquête sociologique en fait sur les lycéens et les enseignants et avec eux aussi, c'est-à-dire de voir un peu ben, leur rapport à l'eau, leur rapport général. Qu'est-ce qu'on connaît de l'eau, puis comment ça évolue.
Ah oui, intéressant. Ouais. Ça va durer combien de temps, cette étude sociologique?
Alors, ça, c'est variable suivant les lycées, comment ça a pu s'organiser, mais en fait, l'idée, c'est sur l'année scolaire. Et ça. Donc, y a, voilà, ces parties-là de séances en classe, nous, on accompagne aussi sur les sorties. Des fois, on peut être avec des acteurs aussi professionnels, des personnes qui travaillent dans les syndicats mixtes de bassin versant, par exemple, ou aux commissions locales de l'eau. Voilà, ça peut y avoir différents échanges, parce que c'est important aussi voilà, pour les jeunes de voir plusieurs Ben, l'eau, elle est partout. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui travaillent autour de l'eau aussi.
Oui, tout à fait.
Voilà, d'en prendre conscience. Et puis, il y a aussi toute une partie qui va être sur la... l'idée, c'est de les rendre un peu aussi ambassadeurs, ambassadrices de, des connaissances qu'ils ont acquises pendant le programme. Et du coup, il y a un moment de forum où ils vont pouvoir repartager des expériences qu'ils ont vécues ou présenter des posters qu'ils ont faits aux autres en fait, étudiants de leur lycée. Quoi.
Mmh. Et après, il y aura aussi des supports, Mélanie Raymonet, vous en parliez, des livrets, qui vont, enfin des rendus, c'est ça, des livrables.
Ouais. Alors l'idée, c'est que ça puisse être après utilisé voilà, aussi par d'autres enseignants en autonomie. Et donc nous, en fait, on retransmet en fait, nos contenus pédagogiques via des livrets de quelques pages, en fait, où on retrace succinctement en fait, le déroulé des séances et puis surtout des liens vers les activités pour pouvoir les reproduire.
Oui, pour que les enseignants puissent agir en autonomie après,
c'est
éventuellement.
Ça, voilà. Mm-hmm. Donc nous, après, au petit débrouillard, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser quand même des matériaux du quotidien qui sont assez faciles à trouver. Et puis on a un site internet qui s'appelle le Wiki Débrouillard.
Il y a tous les modes d'emploi.
Voilà. Alors, il n'y a pas tout
non,
encore.
Non, mais c'est vrai, on peut fabriquer beaucoup de choses, en fait.
Voilà. Mais il y a pas mal d'activités, en fait, qu'on va retrouver dessus. Donc, normalement, ils ont tous les supports pédagogiques à disposition.
Et vous avez le temps, Mélanie Raymonet, et vos collègues, de regarder un peu, justement, ces outils pédagogiques pour les valider scientifiquement
Bah, c'est un travail qu'on fait ensemble, en fait. Et du coup, oui, on fait des allers-retours... Et aussi, il y a l'idée d'avoir des personnes contact côté scientifique en support. Voilà, c'est un travail ensemble.
Et on n'a pas dit le nombre de sorties. Enfin, pour avoir une idée, une classe, elle va faire combien de sorties sur le terrain ? Elle aura combien de séances en tout ?
Donc c'est variable parce qu'on s'adapte à chaque cas particulier. Il y avait l'idée d'avoir une sortie par semaine et puis c'est souvent un peu trop, donc c'est une fois toutes les deux semaines. Enfin, et après, chaque filière a aussi son emploi du temps. Certains sont en alternance et donc sont présents certaines périodes et absents d'autres. Donc en fait, on s'adapte. Mmh. Et après, sur des sorties plus ponctuelles... Mais ça peut être un gros effort, une journée, peut-être trois fois dans l'année. Donc, c'est. Chaque séquence aussi est assez particulière et associée à un nombre de sorties qui varie, quoi.
Ouais.
Ouais, pour compléter, c'est vraiment décider ça avec les enseignants, ouais. En fait.
Oui, puis il y a des questions logistiques, enfin, faut les transporter. Oui. Si c'est loin, il faut des cars, j'imagine.
Oui, et du coup, ça, c'est un point qu'on n'a pas encore détaillé. C'est que c'est aussi, on disait qu'on travaillait ensemble pour les validations des livrets et pour, pour penser les choses. Mais en fait, on travaille complètement avec les enseignants.
Ah oui. Forcément.
Enfin, c'est vraiment un.
Mais oui, parce que c'est quand même. Alors, c'est pas un hasard que vous ayez plutôt choisi des filières agricoles. Enfin, c'est parce qu'ils ont des matières aussi, quand même, qui sont reliées à, à la qualité de l'eau, j'imagine un peu.
Et les enseignants sont en demande sur cet aspect-là aussi. Et donc, il y avait aussi l'idée, quand le premier programme Écoflu a démarré à la fin des années 90, il y avait l'idée de travailler préférentiellement avec les lycées agricoles. Parce que dans ces filières, c'est des personnes qui, dans leur projet professionnel, vont avoir un contact avec cette ressource en eau et potentiellement vont pouvoir agir sur sa quantité et sa qualité. Et parce qu'en fait, là, on a des futurs agriculteurs, mais aussi des futurs gestionnaires et puis des personnes qui vont faire autre chose. Mais en fait, c'est des personnes qui vont avoir un métier en lien avec l'eau. Donc, c'était... pour cette raison, en fait, que ça avait été choisi.
Et le public global, c'est combien de personnes qui est touché ? Combien d'élèves qui participent au programme Écoflu Bretagne pour l'instant, en gros ? 200, non ? Un peu moins, peut-être ?
Un peu moins, parce que là, il y a, à peu près par année, entre 5 et 7 classes qui font le programme, en fait, complet. Et du coup, après, certaines classes sont plutôt à 12 et d'autres plutôt à 25.
Oui, c'est vrai, c'est très variable. Oui,
c'est variable. Voilà. Après, il y a aussi le public extérieur qui peut être sensibilisé.
Événements.
Des événements, voilà. Avec les petits débrouillards, en fait, on s'inscrit aussi sur des des événements en lien ou pas avec l'eau, où on va pouvoir présenter le programme Écoflux.
Oui. Voilà. Il y en a prochainement à annoncer, non, tant qu'on y est non.
Alors là, j'ai pas les lieux.
D'accord. Mais enfin, c'est jusqu'en juillet 2026, donc on a le temps. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a un endroit où on peut suivre, d'ailleurs, le programme Écoflux Bretagne. Enfin, un endroit, je veux dire, en ligne, un site internet, peut-être.
Il y a un site internet. J'ai pas exactement le nom en tête, mais il y a un site internet en fait où qui présente le projet. Et sur lequel sont disponibles en fait les livrets pédagogiques dont on parlait. Voilà, il y a les ressources, l'accès aux données aussi, même si.
Alors voilà, les données pour l'instant, oui. C'est peut-être un peu tôt pour avoir des données, mais
c'est un peu tôt, mais en fait, dès qu'on valide les données, on les rentre dans la base de données et donc c'est accessible en ligne. On peut.
D'accord, donc ils prélèvent les échantillons, les élèves, et ils vous les envoient. Enfin, vous les récupérez tout de suite, c'est ça et,
Non, eux font les analyses. En fait.
Ah, c'est eux qui font les analyses. Oui. Ah ouais. Ouais.
Et eux entrent leurs données aussi en ligne.
Il y a tout cet aspect-là.
Mais après, il y a une étape de validation. Parce que pour pouvoir utiliser des données de sciences participatives, il faut déjà qu'on fasse une comparaison entre des mesures faites par des participants non scientifiques et puis des valeurs mesurées en laboratoire. Avec nos protocoles. Et donc, cette étape de validation est en cours. Mais une fois qu'elle sera faite, validée, les données pourront être disponibles.
Parfait. Et ben, on va s'arrêter là, mais vous reviendrez peut-être après juillet 2026 pour nous faire un bilan de tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci. Au revoir. Au revoir.